Alléluia. Soyez les bienvenus. La fraîcheur a atteint l'extérieur, mais il faut espérer que cela n'atteigne pas l'intérieur. Amen. Nous allons continuer notre réflexion sur ce soupir de Dieu qu'ils expriment par ces trois mots. Si mon peuple. Mais on avait vu ça en deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, avec cet écho-là de la suite de ce verset. Ah, si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des yeux. Alléluia. Et après cette suite qui dit là sera mes yeux, là sera mon cœur. Et c'est là la raison de nos encouragements depuis quelques semaines. Seigneur, nous voulons revivre, Seigneur, tes promesses. Une nouvelle Pentecôte, un renouvellement spirituel. Amen.
Oui, amen.
Vous n'êtes pas encore convaincus. Et c'est la raison pour laquelle je prêche depuis quelques semaines pour qu'effectivement nous puissions rentrer avec conviction. Avec conviction. Alors, la première fois, effectivement, nous étions interpellés quand même. Parce qu'avant que Dieu donne des solutions, avant de dire si mon peuple s'humilie, etc., il nous donne un avertissement. Il nous interpelle, yo ! Quand il n'y aura plus la pluie, quand il n'y aura plus l'onction, quand il n'y aura plus déjà ça, c'est un premier signe d'interpellation et nous nous étions encouragés à être sensibles. Lorsque nous perdons l'enthousiasme, c'est déjà un signe de dessèchement. Quand dans notre cœur, nous perdons de l'enthousiasme, alors nous devons réaliser que nous devons retourner à la source pour boire, pour nous déshydrater, pour retrouver cet enthousiasme. Après, nous avions effectivement vu qu'au travers de ce souhait de Dieu, ce soupir de Dieu, Dieu nous donne des solutions, mais pour ouvrir nos yeux sur des barrages que nous construisons. Si mon peuple s'humilie, par rapport à quoi? À la dureté de notre cœur. Si mon peuple prie, parce que la prière développe la foi, l'incrédulité est un barrage. Si mon peuple cherche ma face, c'est-à-dire chercher la face de Dieu, c'est chercher sa volonté. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le barrage, c'est l'indépendance. Seigneur, je n'ai plus besoin de toi, je fais ma vie sans savoir si tu es d'accord ou pas d'accord avec moi. Si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, si mon peuple se détourne de ses mauvaises habitudes, c'est facile de prendre des mauvaises habitudes, n'est-ce pas? On le fait une fois, puis une deuxième fois, et puis ça nous anesthésie, et puis ça devient des habitudes, et une fois que c'est parti, les habitudes, c'est difficile à les retirer. Mais le Seigneur nous appelle à l'obéissance pour les bonnes œuvres. Et là, réalisons que ça, ces quatre repères qui sont là, qui sont dans la prière de Dieu, je vous rappelle, c'est Dieu qui a exprimé cette prière. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de mauvaise voie, vous allez vous apercevoir dans la continuité des études que ces quatre barrages sont toujours là. Dans les situations négatives, on retrouve au moins un de ces barrages. Mais là où il y a une bénédiction qui se découle, c'est qu'il y a aussi des barrages qui sont retirés. J'ai voulu la semaine dernière les voir en même temps. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'un seul barrage pour retenir les fleuves de Dieu. Et on doit bien réaliser que c'est les quatre barrages qu'il faut que nous fassions tomber. Quand vous faites un gâteau, maman, papa, je ne pense pas que vous contentiez de mettre juste la farine et un peu d'eau. Ça ne va pas être terrible, non? Il faut aussi rajouter peut-être un peu de sucre, non? Et puis peut-être quelque chose qui fasse un petit peu aussi aéré, je ne sais pas, que si on met des œufs peut-être. Oh, il faut au moins ces quatre ingrédients, vous êtes d'accord, pour que ce soit au moins comestible. Mais avec Dieu, c'est pareil, il faut ces quatre étapes-là, mes bien-aimés. Si on veut retrouver ces fleuves d'eau vive, il faut retirer tous les barrages, il faut retrouver ce cœur simple, cette humilité, il faut qu'on retrouve cette vie de prière qui nous anime dans la foi, il faut qu'on cherche à être dépendant de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et passer à l'action. Seigneur, ce que tu me demandes, je le fais. Tant que nous n'accepterons pas ces quatre étapes, alors nous connaîtrons une retenue dans notre vie spirituelle. Et ce matin, j'ai une question à nous poser, que tu peux présenter. Voulons-nous vraiment entrer dans les projets de Dieu? Parce que c'est le projet de Dieu, hein. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, alors je l'exaucerai, je serai là, mon cœur, mes yeux seront là. C'est le projet de Dieu de nous bénir. Pas seulement individuellement, mais collectivement. Et la question que je me pose, que je nous pose. Mais est-ce qu'on le veut vraiment? Est-ce qu'on le veut vraiment? Alors, c'est vrai qu'on peut avoir une double oreille à cette question-là. Mais ne croyez pas que derrière cette question, je veux soulever ce matin une sorte de suspicion à votre mauvaise foi. Ah non. Parce qu'on pourrait se dire, oui, en fait, on veut, mais on n'est pas prêt à payer le prix. Hein? Mais ça, je sais que votre conscience le dit à ma place. Non. Je crois qu'il peut y avoir dans le peuple de Jésus-Christ et par rapport à notre histoire un problème encore plus profond. En Jean, chapitre 5, Jésus est à Jérusalem. Il passe à côté de la piscine qui s'appelle Bethesda. Et là, il y avait plein de malades. Et là, il en trouve un. Imaginez la situation. Il est paralytique. Il est couché. Pardonnez-moi l'expression. Mais comme un gueux. Il n'est pas couché depuis une semaine, deux semaines. Ça fait 38 ans. 38 ans que cet homme est là, couché, en attendant un miracle, quelque chose, parce que là, il se disait que quand la piscine, quand l'eau de la piscine bougeait, alors il fallait que celui qui aille le premier, il sera guéri. 38 ans à vivre cette espérance-là. 38 ans à être à terre, 38 ans à être handicapé, 38 ans. Dans quelle mentalité serions-nous au bout de 38 ans à attendre quelque chose, à soupirer quelque chose, non pas quelque chose de confortable, mais pour vivre tout simplement normalement, un besoin légitime. 38 ans ! Jésus le sait. Il se place à côté de lui. Il lui dit, veux-tu être guéri ? Là, on se dit quoi ? Soit Jésus, c'est rien du tout. Et même si ça faisait 3 semaines qu'il était malade, est-ce que c'est une question à poser à quelqu'un qui est dans cette situation-là? Veux-tu être guéri? Mais ce qui nous interpelle, mes bien-aimés, c'est pas la question que Jésus pose, mais c'est la réponse de cet homme. Et cet homme répond, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Essayons de décoder la réponse. Il ne dit ni oui ni non. Parce qu'il n'ose même plus dire oui. Parce que son découragement, la fatalité dans laquelle il est, l'a emporté sur ses propres motivations. Il n'ose même plus dire oui pour ne pas être déçu. Il n'ose même pas dire « Mais oui, je vais être guéri !» parce qu'il a tellement peur que ça n'arrive pas, que ça rajouterait une déception à ses 38 ans de déception. Seigneur, je n'ai personne. Et c'est pour ça que Jésus pose « Veux-tu être guéri ?» Mais lui, bien sûr qu'il aurait envie de dire oui. Mais la fatalité qui est dans son cœur ne lui donne même plus l'espérance de dire un oui. Et mes bien-aimés, quand je nous pose la question, voulons-nous vraiment rentrer dans les projets de Dieu? Je connais votre réponse. On a levé la main il y a une semaine ou deux. Qui veut retrouver ces flammes d'eau vive? Qui veut retrouver cette nouvelle Pentecôte? Qui veut retrouver cet attouchement spirituel? Qui veut retrouver cette vigueur dans... Mais tout le monde a levé la main, n'est-ce pas? Mais la vraie question, c'est que si la main s'est levée, n'y aurait-il pas eu dans notre esprit? Oui, mais bon... Oui, mais moi, ça fait tellement longtemps que je réclame le baptême dans le Saint-Esprit. Oui, mais moi, tu sais, je connais des luttes. Oui, mais moi, je sais pas ce qui se passe, j'arrive plus à prier. Oui, mais... Et là, ça fait des blocages, vous comprenez? Bien sûr qu'il y a le oui. Ce serait tellement formidable qu'il y ait des baptêmes dans le Saint-Esprit. Ce serait tellement bien que les cœurs reprennent vie. Ce serait tellement bien que quand on rentre dans cette église, mais dès qu'ils sont là, les gens, ils ont envie de louer, de bénir, d'exalter le Seigneur. Ce serait tellement bien. Mais dans notre église, on n'a jamais connu ça. Mais moi-même, j'entends, mais j'ai jamais vécu ça. Mais moi, j'ai connu ça quand j'étais jeune converti, mais depuis. Oui, mais. Oui, mais. Et c'est ces mais-là qui peuvent nous éloigner des projets de Dieu. Et ce matin, je voudrais nous emmener sur une histoire qui est incroyable. La Bible nous dit que les choses qui sont passées dans l'Ancien Testament nous ont été laissées afin que nous n'ayons pas les mêmes mauvais désirs. Vous avez, pour ceux qui lisent la Bible, qui ont déjà eu l'occasion de lire des passages dans l'Ancien Testament, la vie du peuple d'Israël, il y a des périodes glorieuses et puis il y a des périodes vraiment pas glorieuses. On voit de l'entêtement, on voit des situations d'échec, on voit des désobéissances. Et Dieu nous dit, tout ça je vous l'ai laissé afin que ça vous serve d'exemple. Et que vous-même, vous n'ayez pas les mêmes mauvais désirs. Et je voudrais vous emmener dans le livre des Nombres, dans un épisode de l'histoire du peuple d'Israël, qui ont vécu ce « oui, mais ». Nombres, chapitre 13. Et vous la connaissez, cette histoire. Nombres, chapitre 13. Le peuple d'Israël est sorti de son esclavage d'Égypte. Et pas de la manière la plus misérable. Ils ont vu les prodiges, les miracles. Ils sont sortis, ils ont vu la main de Dieu intervenir. Ils ont marché, ils ont plusieurs fois vu l'intervention glorieuse de Dieu. C'est un peuple qui a vu la gloire de Dieu. Et là, et ils marchent pas dans le vague. Ils marchent dans une direction, dans une promesse. Vous allez entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Ce territoire, ce sera le vôtre. Vous allez prospérer, vous allez grandir. Vous êtes le peuple de Dieu. Je suis votre Dieu qui vous conduit, qui vous protège, mais je ne vous emmène pas n'importe où. Je vous emmène sur un territoire de promesses, de grâce, de bénédiction. Ils vivent jour après jour. Ils marchent dans cette direction. Ils n'ont plus qu'une montagne à franchir, mes bien-aimés. Ils sont là. Ils n'ont plus que la montagne à franchir et le territoire est là. C'est un peu comme les enfants. C'est le 23 décembre, quoi. Il n'y a plus que quelques heures et c'est bon, c'est Noël, j'ai les cadeaux. Ils sont là, c'est tout proche. Alors Moïse dit, bon, on va envoyer 12 hommes, d'accord? On en prend un par tribu. Comme ça, chacun se sent concerné. Et on les envoie. Ils vont examiner le territoire. Et là, on est au chapitre 13. Et on va lire à partir du verset 25... Et on va faire une longue lecture jusqu'au chapitre 14, jusqu'au verset 12. Donc, Nombre, chapitre 13, verset 25. Alors, ces 12 envoyés furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Bref, on va dire, pour simplifier pour nous, dans toute l'église. À Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité. Oui, c'est bien vrai. À la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais, le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, des Amalécites habitent la contrée, du Midi les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb, qui faisait partie de ces 12, fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, mais montons, empressons-nous, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs, non pas par sa force, mais parce qu'il se rappelait des promesses de Dieu. Mais les hommes qui étaient allés avec lui, les 10 autres, en l'occurrence, parce qu'ils étaient 2 à avoir ce même langage, lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, des enfants d'Anak, de la race des géants. Retenez cette expression. Nous étions, à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: oh, que nous sommes morts dans le pays d'Égypte! Ou que nous ne sommes morts dans le désert! Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent les uns les autres: nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée et réunis des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Jephthué, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Mais le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, mais c'est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut dans la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, et l'Éternel dit à Moïse: jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux? Je le frapperai par la peste, on se rappelle de Chronique 7, et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Et lisons la fin du verset 34. Le verset est long et vers la fin il est écrit, c'est Dieu qui dit: Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Le peuple marche dans le désert avec une promesse, ce territoire. Ils marchent, ils voient les prodiges, les miracles. Ils n'ont plus qu'une montagne à franchir, plus que ça à faire. Oui, mais... Et là, j'ai relevé plutôt trois raisons qui sont soulevées là dans l'explication de ces envoyés, trois raisons qui font qu'ils n'ont pas eu l'audace de franchir cette montagne, qui n'ont pas fait ce choix de la foi d'y aller. La première raison, c'est au verset 28, les envoyés et le peuple se laissent effrayer par ce qu'il pourrait se passer. Écoutez le discours. On y est allé, c'est vrai, c'est extraordinaire, c'est un pays merveilleux, mais si on y va, les gens sont durs, les gens sont plus forts, on va être écrasés, on va être bousillés, on va mourir. Ils n'en savent rien du tout, mais ils imaginent que si on fait ça, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Mais c'est la peur. C'est la peur. La peur de ce qui pourrait se passer. Qu'est-ce qui nous empêche réellement de rentrer dans les projets de Dieu? Est-ce que la peur nous empêche d'aller plus loin avec le Seigneur? La peur d'ouvrir notre bouche? La peur du qu'en dira-t-on? La peur de parler en langue? Et je n'ai pas là Je ne suis pas en train d'essayer de dire que vous êtes des misérables, pas du tout. Mais ouvrons les yeux sur les techniques que le diable veut mettre dans notre cœur pour nous empêcher d'aller plus loin. J'ai entendu des jeunes gens, même des plus grands, qui disaient « J'ose pas réclamer le Saint-Esprit parce que quand je vais parler en langue, je sais pas ce qui va se passer, c'est bizarre. » Non. Et là, on peut retenir comme ça les bénédictions par la crainte. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se dire? Et qu'est-ce que vont dire les autres? La peur de communiquer une parole inspirée. Seigneur, je reçois de toi, mais j'ose pas, j'ai peur. Seigneur, je voudrais élever la voix, mais j'ai peur. Seigneur, je voudrais parler de toi, je voudrais témoigner, mais j'ai peur. Seigneur, je voudrais pouvoir aller dans les rues et faire ceci et faire cela, mais j'ai peur. Mais quand on accumule toutes nos peurs, on n'avance plus. Alors on va dire, oui Seigneur, on veut les fleuves d'eau vive, on veut la grâce de Dieu, mais j'ai peur. J'ai peur. Et permettez-moi de vous dire que ce sont des fausses peurs. Ce sont des fausses peurs. Peur. On aura l'occasion de revenir une prochaine fois sur cette pensée, mais peur des débordements peut-être. Peur des débordements. Vous savez, j'ai remarqué que plus les gens ont de l'argent, et plus ils ont peur d'en manquer. Plus on est dans un confort matériel, et plus on a peur de le perdre. Et je me demande si dans nos églises, à force d'être tellement confortable, on n'a pas peur que ça déborde un peu trop. Et on aurait l'occasion de relire. Et je vous laisse le temps de méditer chez vous avant qu'on en parle ensemble, mais de la Pentecôte. Essayez de vous plonger 5 minutes dans l'atmosphère du jour de la Pentecôte. Vous essayez de faire un effort que vous êtes là, dans la chambre haute, et vous revivez l'atmosphère de ce moment-là. On en reparlera. Mais c'est vrai. On peut se dire, mais si on va plus loin, qu'est-ce qui va se passer? Des fleuves d'eau vive, c'est énorme, Seigneur! On voit ces crues, ces villes qui sont détruites par les fleuves. Ça bouscule les choses. Le diable nous paralyse par nos peurs, mes bien-aimés. Et là, c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de dire non, je ne veux pas m'éloigner des projets de Dieu par cause de mes peurs. Je ne veux pas. La deuxième raison qui est soulevée, deuxième raison qui est énoncée, c'est le découragement. Le peuple entier se laisse décourager par quoi? Par 10 bonhommes. Ils sont 12 à partir. Il y en a deux qui disent « Faut y aller !» La promesse de Dieu, Dieu nous a pas menti, c'est extraordinaire. Et tous ceux qui connaissent la vie de l'esprit disent la même chose. C'était tellement bon de vivre avec toi, c'est tellement bon d'avoir ce feu, c'est tellement bon de foncer avec toi.
Amen.
Ceux qui connaissent pas ça ne peuvent pas dire ça. Alors il y en a deux qui sont à fond. Et il y en a 10. Oh non, on va se faire plumer. Mais moi ce qui m'interpelle quand même, c'est que le peuple dont on est en train de parler là, c'est pas 100 personnes. C'est pas 200 personnes. La Bible nous dit que c'est 600 000 hommes qui sont sortis d'Égypte. Ça fait un petit paquet quand même. Et qu'est-ce qu'on voit là? Il y en a 10 qui disent on va se faire dépouiller. Et qu'est-ce que disaient les autres? Mais non, Dieu nous a donné des promesses. Allez, courage mon frère. Allez, on va te soutenir. Vous êtes 10, vous êtes peut-être dans la crainte. Mais nous, regarde comme on est nombreux. Ah, on va foncer, en plus il y a Moïse avec nous. Il y a les promesses de Dieu, on va y aller. Non, 10 bonhommes arrivent à déstabiliser tout le peuple. Et là on se dit, mais attends, mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'une minorité arrive à arrêter le projet de Dieu, le plan de Dieu? Parce que je vous rappelle que Dieu ne va pas les laisser rentrer, mais on verra ça une prochaine fois. 10 sur des centaines de milliers arrivent à bloquer le plan de Dieu. Alors disons-le tout de suite, ce n'est pas une question de personne. Et là aussi dans nos assemblées, faisons attention. J'aspire à ce que l'Église aille plus loin. Je vous le dis de tout cœur. Et on voit déjà au milieu de nous, j'espère que vous allez comprendre l'expression, mais qu'il y en a qui avancent, qui ont déjà enclenché la troisième, alors que certains sont encore en première. Je vous en supplie, mes bien-aimés. La Bible nous invite à marcher d'un même pas.
Amen.
Et ne faisons pas d'un problème spirituel un problème de personne. Ne faisons pas de cette situation un problème de personne à stigmatiser, à dire lui il est comme ci, lui il est comme ça. Parce que là on ferait le jeu du malin. On a la réponse un peu plus loin. Dans Caleb, il est dit de Caleb au chapitre 14, verset 24, on ne l'a pas lu, c'est dans la suite, si vous le lisez à la maison. Caleb est animé d'un autre esprit. Et mes bien-aimés, ce n'est pas seulement les 10 personnes qui ont bloqué le processus divin, mais c'est un problème de mentalité. C'est un problème d'état d'esprit. Et Caleb était animé d'un autre état d'esprit, était animé d'une autre motivation, d'un autre cœur, d'une autre manière de voir les choses. Et là, je nous pose la question, voulons-nous vraiment entrer dans les projets de Dieu? Où sommes-nous avec une drôle de mentalité? Avec un esprit de découragement, de fatalité? Sommes-nous des hommes, des femmes qui communiquent la foi à notre frère, à notre sœur? Ou sommes-nous en train de dire, oh, hé, hey, Benoît il est gentil, mais tu sais, il est encore jeune, hein? Je ne suis pas en train de remonter une information que j'ai reçue, je le dis comme ça. Mais on peut trouver plein d'arguments pour retenir. Qu'est-ce que nous sommes dans l'œuvre de Dieu? Des Caleb qui encourageons les hommes, les femmes. Mais rappelle-toi les promesses de Dieu. Viens à la réunion de prière. Viens, on va se faire du bien. Recherchons les choses d'en haut. Cherchons à connaître la volonté de Dieu. Soyons animés d'un bon esprit. Où sommes-nous là animés d'un esprit de lourdeur, d'appesantissement? Oh, si l'autre ne bouge pas, moi je ne bouge pas. Si ma voisine ne prie pas, moi je ne vais pas prier. Si lui ne lève pas la main, je ne vais pas lever la main. Mais Caleb n'était pas comme ça. Il n'est pas en train de se dire, oh les mecs, si vous êtes d'accord, moi je suis d'accord avec vous. Il est fonçons. Et quand il voyait le peuple qui est en train de murmurer, mais taisez-vous, arrêtez. Renouvelez, rappelez-vous les promesses de Dieu. De quel esprit sommes-nous animés, mes bien-aimés? Cet esprit, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui a animé l'esprit de Caleb. C'est lui-même qui s'est animé des promesses de Dieu.
Amen.
Que Dieu nous fasse grâce. Je connais, c'était une expérience qui c'est en colonie de vacances, enfin en camp de jeunes. Et un jour, il y a un jeune qui vient me dire, oh Benoît, il n'était pas baptisé d'eau. Il me dit, est-ce que tu crois que je peux être baptisé dans le Saint-Esprit? Je dis, bien sûr, recherche, soupir. Parce que tu sais, j'aimerais bien prophétiser, j'aimerais bien être un sujet de bénédiction. Mais bien sûr, recherche ça et tout. T'es sûr? Oui, oui, oui. Alors c'était le soir. Puis le lendemain matin, il vient me voir, il me dit, tu sais Benoît, t'es sûr de ce que tu m'as dit, qu'on peut être baptisé? Parce que moi je suis pas baptisé d'eau, et en discutant avec mon copain dans la tente là, il m'a dit qu'il fallait qu'on soit baptisé d'eau avant d'être baptisé dans le Saint-Esprit et d'exercer les dons spirituels. Non, je t'assure. Bref, une sorte de Caleb quoi. Mais non, je t'assure, fonce. Ça rien à voir, regarde, il y a des passages dans la Bible et tout, ah bon. Et le soir même, il a été visité par le Saint-Esprit. Amen. Amen. De quel esprit sommes-nous habités? On va retenir. On va dire, Seigneur, vas-y. Seigneur, bénis ton église. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur. Exhortons-nous. La Bible nous dit même de nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres.
Amen.
Soyons des excitateurs, au sens biblique du terme. La troisième raison que je vois, c'est là où je vous ai invité à faire attention à cette expression. Verset 33. Et nous étions à nos yeux et à leurs yeux. On va dire, évidemment, comme des sauterelles. Mais retenez bien cet esprit. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Mes bien-aimés, comment nous regardons-nous? Parce que quand ils disent nous étions à nos yeux, c'est qu'ils sont en train de se regarder eux-mêmes comme des sauterelles. Alors forcément, si on se voit comme des sauterelles, on va pas croire que les autres vont nous prendre pour des éléphants.
Ah ouais.
Bien sûr, on dit souvent, à force que les gens nous jugent, on devient ce que les gens finissent par dire de nous. Mais je me demande si nous, Église de Pentecôte, on n'est pas rentré dans une logique comme ça. Oh, c'est une petite église. Oh, c'est plus pareil. Oh, avant c'était comme ça, mais maintenant c'est plus comme ça. Mais bien aimé, comment nous regardons-nous? Et non pas seulement comment nous regardons-nous dans l'ensemble, mais comment nous regardons-nous individuellement? Mes bien-aimés, vous n'êtes pas des sauterelles. Vous êtes des enfants de Dieu.
Amen.
Vous n'êtes pas des asticots. Vous êtes des princes. Parce que nous sommes fils d'un roi. Nous faisons partie de la plus belle des familles, mes bien-aimés. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous n'avons pas pour père un père misérable. Nous avons pour père celui qui est le roi des cieux, celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Nous sommes ses enfants. Comment nous regardons-nous? Comme étant les héritiers du roi des rois? Ou comme étant des larbins misérables, où nous devons être comme ce paralytique, nous contenter d'être couchés et de dire « Oh, il n'y a personne pour m'aider !» Comment ça, on n'a personne pour nous aider? Mais si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne mes voeux, je l'exaucerai. Comme Jésus a dit, invoquez-moi au jour de la détresse. Invoquez-moi, jusqu'à maintenant vous n'avez pas prié en mon nom, mais maintenant, demandez quelque chose en mon nom. Et c'est ça la nouvelle Pentecôte. C'est ça le renouvellement spirituel. Je vous invite à tourner vos pages pour voir un exemple positif, celui qui est là en Juges, chapitre 6. Livre des Juges, c'est avant le livre de Samuel, et c'est après le livre de Josué, c'est pas très loin de là où nous étions. Juges, chapitre 6, Juges, chapitre 6, versets 11 à 16. Juges, chapitre 6. On va pas tout lire. Versets 11 à 16. Puis vint l'ange de l'Éternel. Alors le contexte, pardonnez-moi, j'aurais peut-être dû commencer comme ça. Le peuple d'Israël est sous la domination d'un peuple ennemi. Ils sont oppressés, le peuple n'est pas libre. Il est étouffé, on va dire, moralement, spirituellement, physiquement. Puis vint l'ange de l'Éternel, verset 11. Et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Bon. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians, parce que sinon il avait peur qu'on vienne lui piquer. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon qui répond: Oui, mais ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, hein, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors du pays d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Vous avez entendu la réponse, hein? On va revenir dessus. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie?
Amen.
Gédéon lui dit: Oh, oui, mais ah, Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille, c'est la plus pauvre en Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père, je suis même pas une sauterelle. L'Éternel lui dit: Mais, ah, ça c'est les mets de Dieu,
Amen.
Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Qu'est-ce qu'il y a à retenir dans cette histoire? Je reste dans notre idée que comment est-ce que nous nous regardons? Et il est vrai que l'on peut se regarder en se disant: mais moi je suis quoi moi? Je suis rien, je suis un misérable, je suis un pécheur, j'ai encore des luttes et des combats dans ma propre vie, j'ai du mal à prier, j'ai du mal à chercher la face de Dieu, j'ai du mal à me concentrer dans la prière, j'ai du mal à aller plus loin dans ma vie spirituelle, j'ai du mal à méditer la parole, j'ai du mal à être sensible à ces choses-là. Et c'est ce que dit Gédéon: mais je suis le plus petit, le plus misérable, je suis le plus faible, tu me dis de sauver, mais moi je n'arrive même pas à sauver mes grains de blé. La parole de Dieu nous dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Paul est en train de rappeler aux chrétiens: mais attends, ne regarde pas à toi, regarde à ce que le Seigneur t'a donné.
Amen.
Et dans cette histoire, rappelons-nous l'ordre chronologique. L'ange apparaît. Salut, vaillant héros.
Ouais.
Tu te moques de moi, toi? Allez, lève-toi. Non, il ne dit pas ça. Il dit: mais oui, tu te moques de moi parce que, hein, si Dieu était avec nous, Parce qu'on regarde nos pères, ils nous racontent des exploits, ils nous racontent des prodiges, ils nous racontent la Pentecôte, ils nous racontent la visitation du Saint-Esprit, je suis en train de faire une application à notre temps. Ils nous ont parlé des mirages et des prodiges, ils nous ont parlé de la puissance de Dieu qui change les cœurs, etc. Mais oh, tout ça, c'en est où? C'est écrit Église de Pentecôte à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et là, écoutez la réponse de l'ange. Va avec cette force que tu as. Et c'est là que Gédéon, il comprend pas. Il dit, mais attends, la force. Tu me parles de force, mais moi, je suis le plus misérable, la famille est la plus petite. De quelle force est-il en train de lui parler? Gédéon avait une force. Mais qui ne réalisait pas comme étant une force, mais qui est notre force aussi.
Amen.
C'est que Gédéon, il serrait sur son cœur les prodiges et les miracles du temps passé.
Amen.
Il entendait les histoires qu'on lui racontait. Et au lieu de dire « Oh, bah, je bats mon blé, et puis tant pis », quelque part, il avait même... Il était un peu comme ce paralytique couché. « Oui, j'aimerais bien être guéri, mais il n'y a personne pour m'aider. » Et lui est à peu près dans la même situation. Et dit « Oui, tu parles de délivrance, mais c'est pas la situation. » Hier peut-être, hier il y avait peut-être des prodiges, hier peut-être, mais il est où ce Dieu qui fait ces choses-là? Il est où ce Dieu qui anime la foi? Il est où ce Dieu qui allume le feu dans les cœurs? Il est où ce Dieu? Et lui, il gardait ça dans son cœur, mes bien-aimés. Si on veut être non plus une sauterelle, mais si on veut effectivement être comme ce libérateur, comme Gédéon, si on veut aller plus loin, il faut que nous cultivions dans notre cœur les aspirations qui sont à la hauteur de notre Dieu.
Gloire à Dieu.
Il faut que nous rappelions dans notre cœur la force que le Seigneur a donnée aux autres, parce que s'il les a données aux autres, il peut nous donner à nous.
Amen.
Aussi.
Amen.
Le Dieu d'hier est le même, non? N'est-il pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? On le dit.
Amen.
Mais est-ce qu'on le vit avec le cœur? Est-ce qu'on se dit, Seigneur, ce que tu as fait hier, je veux le vivre aujourd'hui? Et je sais que demain, ça peut être encore mieux.
Amen.
Nous voulons revivre une nouvelle Pentecôte, Seigneur. Ce que j'ai pu vivre avec toi, je veux le vivre. Mais ce que mon frère, ma sœur est en train de vivre dans son cœur, dans son bouillonnement, je veux aussi le vivre.
Gloire à Dieu.
Et Seigneur, je sais qu'on peut vivre encore mieux que ça. Et c'est pourquoi l'ange a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Pas ta force morale, pas ta capacité, mais avec ce que tu es en train d'entretenir au fond de ton cœur. Avec cette foi en ce Dieu du prodige, en cette foi en ce Dieu du miracle, en la foi en ce Dieu qui est capable de transformer les circonstances, en ce Dieu qui est capable de guérir, en ce Dieu qui est capable de libérer.
Alléluia.
Notre force n'est pas en nous, mes bien-aimés. Notre force est dans la foi en notre Dieu.
Alléluia.
Mais cette force, elle s'entretient, cette force, elle se nourrit. Le renouveau spirituel ne vient jamais de lui-même. Jamais. Jamais. Essayez, si vous avez le temps, d'essayer de regarder un peu l'histoire. Là, je parle de l'histoire chronologique, là, l'histoire moderne. De relire un peu l'histoire de l'Église en général. Chaque fois qu'il y a eu un renouveau spirituel, chaque fois que l'Église a connu une effervescence, chaque fois que l'Église a connu un mouvement spirituel, dynamique, spirituel et profond, c'est jamais venu comme ça. C'est toujours né d'un groupe, d'un noyau, d'hommes et de femmes qui se sont humiliés, qui ont prié, qui ont cherché la face de Dieu, qui en lisant la parole ont dit, mais attends, il est parlé du parler en langue? Mais c'est quoi ça? Seigneur, montre-nous! Ils étaient dans cet état. Mes bien-aimés, le Dieu d'hier n'a pas changé. Si l'histoire est ponctuée de réveils spirituels, ce n'est jamais Dieu qui a envoyé une fléchette comme ça et qui, hop, ça va tomber sur qui? Mais la Bible nous dit que Dieu a le regard sur la terre, il cherche des hommes. Il cherche des hommes, il cherche des femmes.
Alléluia.
Il cherche des communautés. Il cherche une église qui soit capable de vraiment vouloir vivre les projets de Dieu.
Amen.
Qui va mettre de côté ses peurs. Qui va mettre de côté ses appréhensions, ses calculs. Un peuple qui va pas être là, s'entretenir d'une forme de fatalité, de découragement. Mais qui va serrer sur son cœur les promesses de Dieu. Un peuple qui dit, Seigneur, nous voulons revivre ces choses. On veut revivre ta gloire. On veut revivre tes miracles et tes prodiges. On veut revivre cette onction, Seigneur Jésus. Paul pouvait dire alors aux chrétiens de l'époque, courons avec persévérance dans cette carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ, celui qui est la source et le rémunérateur de la foi, mes bien-aimés. Ne soyons pas comme ce peuple devant la montagne, étions prêts à retourner en arrière. Mais que ce matin nous puissions nous animer, nous réchauffer nos cœurs, retirer nos manteaux qui nous empêchent de courir dans cette carrière. Non pas les yeux fixés sur nous, non pas les yeux fixés sur les circonstances, mais les yeux fixés sur la foi en Jésus-Christ. Seigneur,
amen.
Tu es le même. Seigneur, nous voulons revivre la Pentecôte. Amen.